One, two, two. Right, one, two, it's going through everything. One, two, two, one, two. One, two, two. No, thanks. You're a fish doing that stuff. One, two, two. Thank you. How are we doing? Good morning, Sunday morning. Here we are. One, two. Good.
So can you hear me okay in the booths? One, two, three, four, five, six. Can you give me the thumbs up, guys? Yeah, we've got thumbs up. Yeah. But I just asked them, and they said that we had not checked it. So, if I listen on channel 2, can I hear some French, please?
OK, testing 1, 2, 1, 2, cabine française.
1, 2, 3, French.
Can I have some Spanish, please? Lovely. Great, thank you. And next desk. Thank you. And if we could just quickly swap to the English channel, please. Thank you. Lovely. Perfect. Thank you very much. Okay. All right, I think we're good. Thank you very much.
This is June 22nd, Viscount Room, 8 a.m., Atlas 2, Thematic Group 3, Global Internet, the user.
Before we start, may we ask you...
Wolf Ludwig au micro. Je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu, si vous voulez bien. Vous rapprocher de nous un petit peu.
Yeah.
So are we clear on if we're going to split up into groups?
I would like to discuss it again.
Yeah.
Yesterday
I think we need to make a decision. We don't know what we're going to do this morning. So can we discuss it now?
I will. Good morning.
Wolf Ludwig au micro, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Comme vous pourrez le voir, on est déjà un petit peu en retard. Et nous ne sommes pas encore au complet. Mais j'espère que peut-être les gens vont nous rejoindre petit à petit. Alors, commençons avec notre deuxième journée de travail, deuxième séance de travail. Ce que nous aimerions maintenant proposer, c'est de nous pencher sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, que vous voyez ici à l'écran. Il figure donc dans son intégralité à l'écran. Et il y avait une question qui est restée en suspens hier, à savoir si on se divise en sous-groupes, parce qu'il y avait deux points de vue divergents, donc. Certains se sont montrés en faveur d'une division en sous-groupes, tandis que d'autres, tels que Jean-Jacques, disaient que ça n'avait pas beaucoup de sens de se séparer. Et vu le petit nombre de participants ce matin, ça n'a pas beaucoup de sens, effectivement, de nous séparer. Ça va certainement plus compliquer les choses qu'autre chose. Et s'il n'y a pas de décision forte de votre part en faveur d'une division, alors je dirais qu'il vaudrait mieux continuer à travailler de la même manière que nous l'avons fait hier. Donc vous me faites signe, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Bien. Alors, je pense que cette question est réglée. Nous avons préparé une présentation PowerPoint. Et cela est censé être la prochaine contribution de l'expert sur cette thématique. Donc, poursuivons maintenant avec cette présentation, puis avec d'autres contributions et un débat qui va suivre cette présentation. Et on pourra ensuite reprendre notre discussion conformément à l'ordre du jour. Si vous en êtes tous d'accord, Carlos Reyes. Fatima. Non, attendez, il faut attendre que la présentation figure à l'écran. Je vous en prie, Jean-Jacques. Jean-Jacques Subrenat au micro. Bonjour à tous. Aux participants à distance également, s'il y en a. Alors, je voulais saisir cette occasion pour dire notre reconnaissance aux organisateurs et à tout le personnel technique, aux interprètes également, espagnols, français et anglais, et bien entendu aux rapporteurs Judith et Glenn qui ont tellement travaillé. Et nous remercier, nous, les membres ici du panel. J'ai participé à beaucoup de réunions. J'ai présidé le comité de la participation publique du conseil d'administration de l'ICANN et je peux vous dire que le travail que nous avons accompli depuis ces dernières années, je me souviens une époque où la participation à distance était en quelque sorte un luxe et l'interprétation dans plus d'une langue était considérée comme une question qu'il n'en était pas sûr valait la peine. Or, je crois que c'est la première fois que il y a une interprétation en quatre langues avec l'ajout du chinois. Ce que je veux dire, c'est que il y a une évolution lente, mais très progressive de l'ICANN vers ce que l'ICANN devrait être, c'est-à-dire plus mondialisé, aussi bien en termes d'outils, de recrutement du personnel, d'emplacement avec l'ouverture de bureaux à Istanbul, à Singapour pour toute la partie Asie. Donc, ce que l'on attend, c'est la présentation à l'écran. Mais ce que je voulais vous dire, c'est réfléchissons à la situation qui était la nôtre avant et félicitons-nous de tous ces changements. Wolf Ludwig au micro. Pouvons-nous avoir un micro, s'il vous plaît, dans la salle? Bonjour, j'ai une question. Pouvons-nous envisager d'ajouter un point à l'ordre du jour? On a parlé hier de la définition de l'utilisateur. Devrions-nous faire de même? Devrions-nous faire de même pour l'Internet? Définir qu'est-ce que l'Internet? C'est ma question. Wolf Ludwig au micro. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Je vous laisse le soin de le décider. S'il y a une forte volonté d'étendre la définition d'utilisateur à Internet, alors Jean-Jacques et Fatima vous aideront à trouver une interprétation et à définir l'Internet. Oui, est-ce qu'on parle d'infrastructure, de ressources virtuelles, d'applications? C'est un petit peu le sens de ma question. Peut-être qu'on devrait préciser cela. Wolf au micro, Jean-Jacques, vous pouvez répondre à cette question? Oui, merci de poser cette question d'abord. Jean-Jacques Subrenet au micro. C'est une question intéressante parce que, bien entendu, vous avez raison, l'Internet peut être considéré dans tous les aspects que vous avez dit, plus l'aspect juridique, bancaire, celui des droits des enfants, etc. Donc je pense que ce qui est intéressant ici, dans le fait de réunir des gens comme vous, des gens comme nous à classe 2, c'est justement d'avoir l'occasion, pour une fois, d'avoir ou d'essayer d'avoir un point de vue global sur ce qu'est l'utilisateur, sans pour autant négliger leur diversité culturelle, sociale, géographique, etc., mais également d'accepter l'Internet dans toutes ses complexités, aussi bien les utilisateurs en tant que producteurs potentiels de films, de musique, d'idées, de points de vue. Donc c'est toute cette diversité, cette richesse de possibilités que nous avons tenté d'analyser hier, me semble-t-il, et je pense qu'on devrait se concentrer là-dessus aujourd'hui. Je sais que du point de vue méthodologique, ça n'est pas satisfaisant parce que on aurait tendance à dire oui, l'Internet, c'est les applications, ce sont les identités. Et c'est vrai. Ce que je suggérerais pour ma part, de manière très concrète, c'est que lorsque vous ressentez le besoin de dire attendez, maintenant, on est en train de parler de cet aspect-là précis de l'Internet, alors intervenez et dites-le. Et on se concentrera là-dessus. Mais autrement, comme principe général, je crois que l'opportunité que nous offre Atlas 2, c'est justement d'essayer d'être aussi généraux que possible et d'avoir ce point de vue général. Wolf au micro, merci. Je crois que maintenant la présentation est prête. Fatima, vous avez la parole. Fatima Cambronero au micro. Merci, Wolf. Je vais parler en espagnol. Alors, voici la présentation que nous avions préparée sur ce thème. On a déjà parlé de certains aspects de cette présentation. Donc, je vais passer rapidement sur certains points que nous avons déjà évoqués hier. Hier, donc, les membres de cette équipe se sont présentés pour la séance thématique numéro 3. Donc, passons à la diapo suivante. Nous avions également parlé et demandé à chacun d'entre vous de se présenter, de nous dire, de vous raconter ce que nous allions faire durant cette séance. Donc, passons à la diapo suivante. Vous voyez ici nos sessions de travail. Session d'hier et aujourd'hui, donc nous sommes dimanche matin, séance de 8h à 10h30, puis une autre séance numéro 3 de 11 à 13h, puis pause déjeuner et on revient à 15h pour clore et présenter un document ou les résultats de nos travaux. Diapo suivante. Alors, ce que nous avions proposé de débattre dans ce groupe, c'était ce dont nous parlions hier, c'est-à-dire, il s'agit ici de parler ici de la confiance de l'utilisateur, on en a beaucoup parlé hier, et également la question posée dans la salle, à savoir que l'Internet s'est développé sur la base de la confiance des utilisateurs. Et c'est l'un des sujets que l'on proposait de débattre et d'analyser. Veuillez m'excuser parce qu'il me semble que cette présentation est différente de la mienne. Bien, l'ordre était inversé. Excusez-moi. Alors, ce dont nous voulons parler hier est lié aux pays, aux économies en développement, c'est-à-dire qu'on va parler des utilisateurs dans les pays en développement. Et ce que l'on proposait de débattre, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a des différences entre pays développés et en développement pour ce qui concerne le point de vue et la perspective des utilisateurs d'Internet. Et là, on voulait voir si ces différences existent réellement. Et c'est lié à l'infrastructure, à l'accès, en particulier l'accès au débit, l'accessibilité, par rapport à ce que l'on disait hier, l'accès pour les personnes handicapées, s'il existe des différences en termes de coûts et de qualité de service. Autre point que nous aimerions débattre, les accords commerciaux, par exemple, entre les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs de contenu et les gouvernements dans les pays respectifs, pour voir si cela a une incidence sur l'utilisateur final de l'Internet. Donc, on part du principe que cela a une incidence sur l'utilisateur par rapport à l'accès en ligne, par rapport à la création de contenu local et à l'innovation, parce qu'hier on parlait également de l'innovation qui a fait que l'Internet a pu se développer et est devenu l'espace adéquat pour que chacun puisse amener sa part de créativité. Également la numérisation de l'Internet. Ça, c'est ce que l'on propose pour débattre. Voir si ces différences existent. Par exemple, dans certains pays de notre région d'Amérique latine et des Caraïbes, nous sommes encore en train de débattre de l'accès aux services, de l'accès à l'Internet. Et peut-être que le fait de... Peut-être que l'on ne ressent pas ce besoin encore de débattre de quel type d'Internet est le plus adapté à nous, parce qu'on n'en est pas encore là. Par rapport à l'accès au débit, dans notre région, on en parle beaucoup. C'est pourquoi on voulait proposer ce point pour en débattre. Pour voir si vous aviez ces problèmes dans votre région.
Do you allow a question from Sergio?
Yes.
Yes. Go ahead. Go ahead, Sergio.
Et toi, si. Muy buenos días.
Bonjour à tous. Sergio au micro, dans la salle. Une question. À l'instant, il y avait un texte écrit en anglais à l'écran. Je reprends. Bonjour à tous. Je disais donc qu'il y a un instant, lorsque Fatima parlait, il y avait un texte en anglais à l'écran qui parlait des utilisateurs. Et je crois que le dernier paragraphe était erroné. Je voulais vous demander d'avoir la gentillesse de bien vouloir le relire, parce que je sais qu'il y avait des problèmes. Mais je voulais le dire. Est-ce qu'on pourrait le relire à nouveau pour voir si on est d'accord avec cette rédaction ou s'il faut la modifier? Merci.
Thanks, Sergio.
Wolf Ludwig au micro. Merci. Je crois que nous allons devoir attendre pour qu'on retrouve la présentation, qu'on vous l'affiche à l'écran. Pour vérifier ce dernier paragraphe auquel vous faites allusion.
Just this one?
Okay. It's a technical issue. It's a question.
Okay. If you now have it on the screen, can you just read it, Fatima?
Wolf Ludwig au micro. Oui, si vous l'avez, vous, à l'écran, Fatima, pouvez-vous le lire et peut-être le traduire en espagnol? Fatima au micro. Oui, la phrase à laquelle tu fais illusion, c'est que ces différences pour les utilisateurs de l'Internet, ces différences plutôt affectent les utilisateurs par rapport aux utilisations en ligne, la création de contenu local et l'innovation. Et le dernier point, l'alphabétisation en ligne. Wolf au micro, oui, vous parliez peut-être du paragraphe précédent ou d'un paragraphe plus haut.
Issue one.
Premier problème, dernier paragraphe. Fatima au micro, oui. Il est question de l'utilisateur de l'Internet, c'est cela? Oui, on est passé à la deuxième question, mais on va revenir sur cela, parce que l'ordre est inversé.
Reach across between developers. because that's what you've had.
Can we first...
Wolf au micro. Attendez, attendez de poser votre question. On va préciser d'abord, répondre à cela avant de passer à votre question. Fatima au micro. Alors, la question de la problématique numéro 2, c'est celle que l'on veut proposer. Comment surmonter ces différences entre pays en développement et pays développés? C'est la question numéro 2 dont on va parler maintenant. Ensuite, on va revenir sur cette question qui est restée en suspens et que présentait Sergio. Wolf au micro. Cette présentation est donc finie. Vous avez fini cette présentation. Très bien. Alors, il y a une autre question dans la salle. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour. Wolf au micro, pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Javier Chandia, je représente l'Association chilienne des utilisateurs de l'Internet. Tout d'abord, j'aimerais dire que je me sens extrêmement motivée par les thèmes qui sont traités ici à la réunion de l'ICANN. J'ai déjà participé à deux réunions. On n'a jamais parlé de la perspective de l'utilisateur comme on le fait aujourd'hui. Moi, je travaille directement avec les utilisateurs. Il y a une journée de l'Internet au Chili et j'ai l'occasion de travailler avec des personnes âgées, des enfants, des jeunes adultes. J'essaie de promouvoir des activités numériques dans les collèges et autres. Donc, toute cette question des utilisateurs revêt une importance particulière. Et je ne nous considère pas comme simplement des représentants, mais également comme les responsables du fait que l'Internet permette aux gens d'être libres et de manière plus adéquate. L'utilisateur ne pense pas aux aspects techniques. L'utilisateur pense simplement au fait de savoir si le haut débit est cher, si les informations lui parviennent et si le service répond à ses attentes. Donc, il est important de voir que l'utilisateur final doit être satisfait de ce service de l'Internet. L'autre jour, je parlais avec une personne et cette personne âgée me disait que l'Internet, c'est un mal nécessaire. Et malheureusement, nous, on lutte pour que cette idée change. Parce qu'à travers les différentes informations qui circulent, ces personnes voient l'Internet d'un mauvais œil, alors que l'Internet est neutre et dépend de la personne et de la manière dont cette personne l'utilise, de la bonne manière ou non. Et si on se concentre trop sur l'aspect technique, sur le fossé numérique, nous, on lutte pour combler ce fossé numérique. Il y a beaucoup de gouvernements qui ont lutté pour combler ce fossé. Mais il y a également un fossé en termes de génération, peut-être également économique. Aujourd'hui, il y a un fossé qui veut que les personnes âgées, de par la retraite qu'ils touchent, ne peuvent pas avoir accès à un service de qualité. Donc, pendant toute notre vie, il faut veiller à ce que l'Internet soit accessible à ces personnes. Dans les collèges, il y a un processus qui doit garantir que l'Internet soit un outil éducatif. Et ça, ça dépend de nous tous. On travaille tous dans ce sens. Et fort heureusement, l'accès a évolué dans beaucoup de pays. On a maintenant accès à l'Internet dans beaucoup de régions, y compris dans des régions rurales. Et il est important de travailler main dans la main avec les gouvernements, qu'on fasse écouter notre voix et celle des utilisateurs. Aujourd'hui, ce qui importe du point de vue de l'utilisateur, c'est qu'il y ait participation. C'est que la voix des utilisateurs soit entendue dans les espaces où se retrouvent les gouvernements. Oui, excusez-moi, on me demande de ralentir un petit peu le rythme. Et ça, c'est important. qu'on puisse être le canal de communication et qu'on puisse porter la voix des utilisateurs. Je le dis de manière très simple. À quoi sert le savon si on n'a pas d'eau? Donc, en d'autres termes, pourquoi avoir cette infrastructure si on n'éduque pas notre population? L'Internet est essentiel dans notre vie. On doit en faire une priorité aussi bien du point de vue de l'éducation, mais également de l'amélioration des conditions de vie. Et c'est pour cela qu'on se bat, que l'Internet soit accessible à tous et qu'il soit utilisé à bon escient. Wolf Ludwig au micro, merci de ce commentaire. Jean-Jacques, Fatima, souhaitez-vous répondre, réagir à cette intervention? Jean-Jacques Subrena au micro, merci Wolf. En l'espace de deux ou trois interventions, vous avez déjà soulevé les points les plus importants et j'aimerais y répondre dès maintenant. D'abord, il y a une question à laquelle on devrait prêter une grande attention, la définition et le vocabulaire. Sur cette diapo que j'ai vue, et je m'en excuse, lorsque on me l'a présentée, je n'y ai pas prêté l'attention nécessaire. Plutôt que de parler de pays développés et en développement, je parlerai plutôt d'économie émergente, parce que les caractéristiques de certains de nos pays, ce n'est pas qu'il s'agisse de pays sous-développés du point de vue culturel ou social. Dans le cas du Pérou, par exemple, il y a beaucoup plus de cohésion sociale qu'en France, par exemple, mon pays. Donc il faut être très prudent là-dessus. Je crois que le terme accepté, c'est celui d'économie émergente. On parle d'économie du point de vue technologique. Il ne s'agit pas d'une critique ou d'une évaluation de vos valeurs culturelles. Et de ce point de vue, nous respectons la diversité. Deuxième chose, par rapport aux attentes. Vous avez tous deux parlé de l'accès et de l'accessibilité. Pour ma part, j'aimerais ajouter une troisième composante qui me semble fondamentale, et j'espère que dans tous vos pays, vous allez faire pression sur vos gouvernements locaux, sur le Parlement, pour y parvenir, comme ça a été le cas au Brésil récemment. Il y a une législation de l'Internet pour la protection des droits des utilisateurs de l'Internet. Et de la même manière, il y a même une déclaration de haut niveau, par exemple en Finlande. L'accès à l'Internet est considéré comme étant un droit de base. De même en Estonie. Et dans la loi française, il est fait mention du fait que l'utilisateur de l'Internet a des droits. Ça n'est pas une tolérance, ça n'est pas un privilège, ce sont des droits. Donc, en plus de l'infrastructure, de l'accessibilité, des coûts, des accords commerciaux, etc., n'oubliez pas qu'il y a une condition qui chapeaute tout cela, qui est politique, elle n'est pas sociale, elle n'est pas économique. Mais il s'agit de la manière de considérer l'utilisateur de l'Internet comme un citoyen lambda qui a des droits qui incombent à tous les citoyens. Autre chose, les parlements. Vous vous souviendrez qu'hier soir, lorsque j'ai conclu, j'ai repris quelque chose dont j'avais parlé avec Madame Epstein, à savoir les parlements. Il faut toujours avoir cela présent à l'esprit. De quoi avons-nous besoin pour parvenir à l'autonomisation. Si vous avez besoin d'avoir des coûts plus justes, mais tout cela revient au même, l'autonomisation. Donc, veuillez le prendre en considération. Je suis un peu plus âgée que vous, peut-être, donc je prends la liberté de vous faire part de mon expérience.
Maureen.
My name is Juan Manuel Rojas. I will speak in Spanish. Yo, bueno, quiero hacer una breve unión entre esos cinco más o menos temas que están ahí propuestos. Como bien lo decía Fátima, sí, efectivamente, tenemos diferencias entre cada uno de esos temas, por lo menos en mi.
J'aimerais donc rassembler un petit peu ce que disait Fátima. Nous avons différents thèmes, y compris l'infrastructure, l'accès, l'accessibilité, mais cela est limité pour les personnes handicapées, les coûts, et dans certains cas, nous avons l'accès aux larges bandes passantes, qui n'est pas toujours de haute qualité, et enfin les accords commerciaux, avec les prestataires de services Internet, avec les gouvernements. Il y a donc des interférences parfois politiques qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, limiter l'accès à l'Internet, limiter les téléchargements dans certains pays, on le note, tout cela a un impact sur le dernier point, les activités en ligne. Ça ne permet pas de bâtir des capacités. Nous avons beaucoup d'accès à l'Internet, mais pas assez de développement de contenu local. Nous n'avons pas Nous avons un certain illettrisme, si vous voulez, au niveau de l'utilisation de l'Internet, qui est mal connu par de nombreuses personnes. Et il y a donc un problème de formation, un problème de développement des capacités, d'éducation. Et comme nous l'avons dit hier, l'Internet souvent se limite à Facebook, au courriel, au email, peut-être Google, et encore. Mais dès qu'ils font une faute de frappe, eh bien, ils sont très déçus. Ils savent très mal utiliser, en fait, tous les outils qu'offre l'Internet. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en Colombie, nous avons des lignes de conduite, des politiques, des règlements, un système gouvernement Internet, e-government, qui est en train de se développer beaucoup. Même dans des petites villes, on voit beaucoup d'accès à l'Internet, beaucoup de sites web gouvernementaux qui sont très utiles pour les citoyens. Mais le problème, c'est l'accès, parce que tous les citoyens n'ont pas accès à cet Internet. Et je travaille avec beaucoup de petites municipalités. Parfois, vous avez un très bon Internet, mais vous n'avez pas de route goudronnée. Donc, nous avons besoin également d'un contenu supérieur mis en ligne provenant de nos pays, provenant de nos collectivités. Le gouvernement informatisé, en utilisant beaucoup l'Internet, c'est quelque chose de tout à fait positif, mais il faut également voir comment cela va fonctionner. Est-ce que ça va être un côté pyramidal, hiérarchique? Est-ce que le gouvernement va imposer un petit peu sa façon de voir? On a également besoin de beaucoup de formation. Et cela mène toujours à pas assez de développement de contenu au niveau local. Eh bien, je vais demander à la personne qui se trouve sur sa gauche de s'exprimer. Et ensuite, nous allons nous concentrer plus sur ces points. Mais allez-y, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, cette personne ne s'est pas présentée, mais je m'appelle Sergio Salinas. Et j'aimerais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. En premier, j'aimerais dire que je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Jacques sur les économies émergentes. C'est une définition très claire de la manière dont on se développe dans le monde. Et pour ce qui est d'autres pays comme l'Estonie, la Finlande, j'aimerais vous donner un petit exemple de cela et vous dire la manière dont on pourrait progresser en tant qu'utilisateur. Eh bien, en Argentine, il y a une loi qui garantit l'accès gratuit et sur un pied d'égalité pour tous les foyers. Cela provient donc du gouvernement national pour réduire le fossé numérique qui existe comme dans de nombreux pays. S'il y a un ordinateur par foyer, il doit y avoir également l'accès à l'Internet avec quand même une large bande passante garantit un meilleur service, un meilleur accès au site Internet, aux capacités de l'Internet. Bon, il s'agit d'un investissement parce que si l'on veut apporter la connectivité à tous ces foyers, cela demande beaucoup de travail. Pour le moment, il n'est pas du tout garanti que chaque foyer ait l'accès. On en parle en Argentine. Il y a un projet de loi qu'on espère réussir à faire passer d'ici peu. Et il est exact que la plupart des utilisateurs n'utilisent que deux ou trois applications ou quelques sites uniquement. Donc ça, c'est quelque chose à améliorer également. L'utilisation très large de l'Internet à la suite de formations, d'informations des utilisateurs pour savoir tout ce que l'on peut faire avec l'Internet. C'est un point fondamental. Il me semble que on se concentre beaucoup sur l'aspect économique. Lorsque l'on parle des économies émergentes ou des pays en développement, il faut également penser à d'autres points. On devrait parler de l'équité, de la justice sociale, de la liberté d'expression, et tout cela doit être inclus dans ce débat. Merci beaucoup. Merci. Avant de passer au prochain intervenant, j'aimerais suggérer que nous avons tant de thèmes à traiter dans ce cadre, et nous avons déjà entendu beaucoup d'interventions très importantes. On a parlé d'infrastructure, on a parlé d'accès, de coûts. Donc pour se concentrer un petit peu plus, par exemple sur l'infrastructure et l'accès, ensuite on pourra passer aux autres points. Donc j'aimerais voir si l'on peut parler en premier de cela, infrastructure et accès, et ensuite de passer au point suivant. Donc nous avons plusieurs mains que j'ai vues se lever. Je vois que Aziz était en premier. J'ai vu Yulia également. Donc, Julia, vous avez la parole. Oui, ça marche, très bien. Donc, Julia Wenson de Uralo, et Je travaille contre la cybercriminalité et la sécurité de l'Internet pour les groupes les plus vulnérables dans la société de l'information. Nous sommes basés en France, mais nous travaillons dans toute l'Europe à partir de Strasbourg. Donc, trois points que j'aimerais soulever et qui, selon moi, sont extrêmement importants. Jean-Jacques Subrenard en a déjà parlé. J'aimerais me concentrer justement sur l'accès, comme cela a été suggéré, mais pas seulement l'accès à l'Internet ou à l'infrastructure, mais l'accès à l'information. Parce que nous pensons, en travaillant avec des groupes vulnérables, les personnes vulnérables, soyons très concrets, la définition de l'agenda et la déclaration de Tunis était la suivante, au WISIS. Lorsque l'on parle d'accès, eh bien, c'est une question d'infrastructure, mais également une question d'accès à l'information. On utilise des outils Internet d'une manière sûre, mais dans ce cas, j'aimerais remercier Jean-Jacques d'avoir souligné les droits des utilisateurs. Et ça fait partie des droits à l'utilisateur, cet accès à l'information. Il s'agit là de principes forts. Les autorités locales jouent un rôle important dans ce processus. Parce que les autorités locales peuvent faire en sorte que le processus pour les personnes les plus vulnérables soit renforcé. La manière dont l'Internet puisse donner un peu plus de pouvoir, de droit à la parole aux personnes qui ont des problèmes peut-être économiques, des problèmes d'accès, de vulnérabilité. Il est donc important d'avoir un processus pour la participation de tous les utilisateurs, notamment des plus vulnérables, au niveau local. Ça doit être fait par les autorités locales. Cela, ils doivent utiliser certains processus pour avoir des services Internet. En effet, nous avons parlé déjà de ce que font certaines municipalités pour avoir une administration informatisée qui utilise l'Internet. Lorsque l'on parle de l'accès, il ne faut pas oublier cela. L'accès à l'information est un droit de l'homme. Oui, je crois que c'est un point très important que nous avons noté. Si l'on peut se concentrer sur ces deux points, l'infrastructure et l'accès, cela peut être très large. Aziz, vous avez la parole.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les quatre points sont liés. Je m'explique. Que ce soit l'infrastructure ou l'accès ou le coût, ils sont très liés. Ma remarque se situe au niveau de la différence, ou plutôt, et c'est à partir de là que j'expliquerai pourquoi c'est lié au coût, parce que l'infrastructure aujourd'hui de l'Internet se trouve pratiquement à 100% dans les pays développés. Et quand on regarde les communications téléphoniques, par exemple, si on compare le téléphone avec l'Internet, quand un abonné A appelle un abonné B dans un pays B, les opérateurs partagent plus ou moins le coût de cet appel. Alors que la connexion Internet, quand un abonné utilise l'Internet, le coût il est plutôt vers ceux qui possèdent l'infrastructure qui se trouve dans les pays développés. Donc, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais le modèle Internet place la totalité du coût d'un seul côté. D'un seul côté, le côté des pays en développement, qui doivent se connecter au dorsal situé pour la plupart des pays industrialisés. J'irai jusqu'à dire même que les pays en développement, plus ou moins, subventionnent le système Internet dans les pays industrialisés. Et je pense que ça serait intéressant de se pencher sur sur cette question qui est liée à l'infrastructure, liée à l'accès, liée au coût. Et on va me répondre, ah, il y a des EXP. Les EXP, pour les gens qui ne savent pas, c'est tout simplement des points d'échange qui permettent aux fournisseurs d'accès à Internet d'échanger le trafic. Et bien sûr, il y a un effort au niveau de l'ISOC qui va dans les pays africains pour sensibiliser un peu les gouvernements à installer des points d'échange dans leur pays pour faciliter ou pour plutôt alléger le trafic pour que l'utilisateur dans le pays en développement ne souffre pas au niveau du coût. D'ailleurs, on constate aujourd'hui le coût de l'Internet est beaucoup plus important dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Et je pense que ça vaut le coup. Je vois Wolf qui n'est pas d'accord, mais on peut comparer, par exemple, le coût que je paye moi, chez moi, par rapport au coût que tu payes. Et en plus, la qualité, puisque là aussi, parmi les points, il y a la qualité de service. Moi, je paye pour 8 mégas, mais quand je vérifie, j'ai 2 mégas ou même pas. Et l'Internet aussi s'arrête. Et pourtant, le Maroc, qui est mon pays, est considéré parmi les pays où l'infrastructure d'Internet marche bien. Mais quand on va vers le sud, vers les pays subsahariens, alors là, vous pouvez demander, il y a des collègues ici qui peuvent témoigner qu'on paye des fois une qualité qui n'est pas réelle. Et quand vous appelez votre opérateur, il vous dit non, vous avez tant de mégas, alors que la qualité des lignes, du réseau, etc. Ça... Donc moi, j'aimerais bien qu'on se penche sur cette question qui est liée à l'infrastructure et liée au coût, que les pays en développement, c'est un peu paradoxal, subventionnent le système Internet dans le monde. Merci.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Subrenin. J'aimerais dire...
Pour répondre à Aziz, je trouve que le point de vue que tu viens d'exprimer, Aziz, est très important. Nous avons tendance dans notre communauté à séparer les différents éléments, accessibilité, accès, infrastructure, etc. Mais tu as bien fait de souligner le lien organique entre tous ces éléments. Je voudrais mentionner deux choses ici. La première, c'est qu'il y a un nouveau courant de pensée économique ou de philosophie économique représenté aujourd'hui par Thomas Piketty. Le capitalisme au XXIe siècle, et en anglais, c'est un best-seller d'ailleurs aux États-Unis, Capitalism in the 21st Century. Je cite ça simplement parce que sa méthodologie est intéressante. Et si cela vous intéresse, je serai prêt à travailler avec certains d'entre vous pour voir si on ne peut pas appliquer cette méthodologie de recherche au cas de l'Internet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ta conclusion ou ta dernière phrase, Aziz, où tu dis... en fait, c'est les pays, les économies émergentes qui subventionnent en quelque sorte l'Internet du reste du monde. Je pense que c'est un avis peut-être un peu exagéré, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a une inégalité de fait. Donc ça, c'était mon premier point. Ça vaudrait la peine d'étudier d'une manière un peu plus précise l'économie politique de l'Internet en matière d'accès, d'infrastructure et de coûts et de qualité. Mon deuxième point porte sur la technologie. Beaucoup de nombreuses difficultés qui viennent d'être soulignées ce matin pourraient être résolues, au moins en grande partie, par un recours à une nouvelle technologie, à plusieurs technologies. Je voudrais en mentionner juste une ici, qui est dans son acronyme anglais DTN, c'est-à-dire Disruption Tolerant Networking. Ceci est une technologie qui n'existe pas encore, elle est au stade de l'étude, il y a des essais qui ont été faits, et il s'agit de voir dans quelle mesure il est possible d'établir des connexions Internet sur de très grandes distances dans l'espace. Alors, je sais que vous allez tout de suite me dire que je suis fou parce que votre pays n'a rien à voir avec l'espace. Erreur. Cette technologie est fondée sur un principe très simple, c'est de compacter, de réunir de très grandes quantités d'informations et grâce à un réseau de tout petits satellites autour de la, qui circulent autour de la Terre, de permettre de upload, donc d'envoyer vers les satellites les questions ou les renseignements, et la fois suivante, quand le même satellite ou un de ces satellites du réseau passe au-dessus de chez vous, il y a une activité intense sur une très brève période qui apporte les réponses ou qui apporte les renseignements voulus. Donc, ceci n'est pas encore au point, mais je vous engage simplement à vous rapprocher de ceux qui sont au courant et qui connaissent ce projet. Il semble qu'il y ait des solutions nouvelles et que ça vaudrait vraiment la peine que vous donniez votre point de vue d'utilisateur dans les économies émergentes pour que vos préoccupations soient tenues en compte dès la programmation, c'est-à-dire dès la conception des solutions. Merci.
Oui, on a Narine, peut-être d'abord. Merci beaucoup. Narine d'Arménie. Je suis un centre éducatif en Arménie et je suis là pour une meilleure formation informatique. Et ma question est avec ce thème que vous venez de développer et j'aimerais suggérer cette alphabétisation informatique soit au premier paragraphe et non pas au deuxième, puisque il me semble que la première partie s'est mentionné qu'il y a des différences entre les pays développés et en développement pour les utilisateurs finaux en termes d'infrastructures, d'accès et ainsi de suite. Et je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Nous devons parler des économies émergentes et du rapport avec les autres pays, et il me semble que les pays qui ont un taux d'alphabétisation extrêmement élevé ont des économies évidemment beaucoup plus florissantes. La deuxième remarque sera la suivante. En ce qui concerne l'accès, cela ne veut pas dire obligatoirement avoir un meilleur taux d'alphabétisation. Lorsque l'on voit dans les pays en développement, comment est-ce qu'on utilise l'Internet dans ces pays ? Eh bien, il y a très peu, en effet, de contenu local, comme on l'a vu, et les ressources sont principalement pour le divertissement et non pas pour véritablement la formation ou l'éducation. Donc, avoir accès à l'éducation, c'est absolument essentiel et cela doit rentrer dans le premier paragraphe. Il faut lui donner beaucoup plus de valeur. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que Didier a la parole maintenant.
Didier Cassolet, Afralo. Tous les problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure, je me demande s'il n'est pas possible de les séparer en couches. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui ont des solutions locales et il y a d'autres qui ont des solutions globales. Et donc, pour les solutions locales, probablement que nous sommes responsables, nous, les acteurs. S'il n'y a pas de solution locale, peut-être que nous n'avons pas agi assez ou peut-être que nous n'avons pas communiqué assez. Nous qui sommes au courant, nous qui avons eu le privilège d'être au courant de ça. Et donc, l'infrastructure ne peut pas provenir d'ailleurs. L'infrastructure doit être faite localement. Il faut donc un plaidoyer local sur toutes ces questions que nous posons. Mais les choses qui vont rentrer au global sont d'autres. Mais il y a la plupart des points qu'on a cités aujourd'hui, probablement que 80% des points peuvent être réglés si nous travaillons un peu plus localement.
Merci beaucoup. Je crois qu'ensuite, oui, bonjour. J'appelle Johnny Loreano et je vais m'exprimer en espagnol. Johnny Loreano au micro. Nous avons donc parlé de ces problèmes dans de nombreuses occasions au Pérou et nous avons analysé plusieurs raisons pour lesquelles l'Internet est un pilier véritablement du développement de notre pays. Nous devons donc prendre l'Internet comme un moyen et non pas une fin. Et je dis cela parce que tout d'un coup, nous avons peut-être l'infrastructure, mais beaucoup d'entre nous comprennent bien que le contenu local ne va pas être développé. Ça dépend beaucoup des politiques gouvernementales. Nous avons entendu dire souvent que les utilisateurs ne veulent pas ou ne savent pas ce qu'ils veulent ou n'ont aucune idée de ce qu'ils recherchent. Mais c'est à ce niveau que les gouvernements doivent jouer un rôle fondamental . Les pays choisissent, les peuples choisissent leur gouvernement et l'autorité du gouvernement est de développer des idées nationales, d'avoir une feuille de route de développer. Donc on parle beaucoup d'infrastructures. L'infrastructure joue un rôle, c'est très clair, un rôle important. Les statistiques indiquent que 1 km de route goudronnée, c'est une accessibilité Internet à 10 000 utilisateurs. Donc c'est au gouvernement de décider d'investir dans des routes goudronnées ou dans l'accès à l'Internet. Pour un kilomètre de route goudronnée, 10 000 utilisateurs Internet. Donc ça dépend beaucoup du PNB du pays, de sa richesse. Mais un pays qui est bien connecté va avoir 2% d'augmentation de son PNB. Donc, à la fin de cette réunion, nous pouvons parler des problèmes que nous avons notés à nos gouvernements. Nous pouvons communiquer avec nos gouvernements pour faire avancer les choses. Parce que si l'on prie Dieu très peu, on est un petit peu fou. Mais si l'on prie pour quelque chose, eh bien, au contraire, prions pour obtenir beaucoup. Lorsque l'on prie, il faut demander beaucoup. Et donc, de la même manière, il faudra demander beaucoup à nos gouvernements. Nous pouvons avoir un développement de politique Internet de l'État au Pérou, dans mon pays, par exemple, je reviendrai. Et je pense qu'il faudra réagir beaucoup plus et en effet être beaucoup plus proche du gouvernement pour faire nos activités de plaidoyer. Pour les inciter, nous devons développer des propositions qui aient un impact sur notre pays tout entier, sur notre nation tout entière. Et ça, c'est un impact qui permettra d'améliorer l'accès à l'Internet, l'accès au réseau. Il y a des pays où il n'y a pratiquement pas de points d'accès. c'est une très bonne proposition qu'on a entendue tout à l'heure. Améliorer la transmission des données, faire baisser les coûts, avoir des points d'accès, des points d'échange. Il doit y en avoir même plus d'un par pays. C'est essentiel. Nous devons absolument prendre cela en compte. C'est pour cela que je suis ici, pour me concentrer sur ces problèmes, pour faire des activités de plaidoyer pour l'accès à l'Internet. C'est une excellente opportunité qui est devant nous pour la gouvernance de l'Internet, pour les utilisateurs de l'Internet, pour que ce soit eux qui puissent mieux gouverner l'Internet. C'est notre nouveau modèle. Chaque pays a donc un CCTLD et un responsable du CCTLD. Et j'aimerais donc revenir sur ce qu'a dit Jean-Jacques, sur l'intérêt public. Il s'agit là de l'intérêt public, parce que les utilisateurs, le gouvernement, le secteur commercial, nous sommes tous des utilisateurs en fin de compte. Mais l'intérêt public, c'est les véritables utilisateurs de l'Internet. Et nous devons concevoir un modèle très similaire au modèle brésilien. On a vu au Brésil les avancées qui ont été faites. Le gouvernement, la communauté commerciale, des entreprises, tout le monde s'est mis d'accord pour gouverner l'Internet au Brésil d'une certaine manière. C'est un nouveau mécanisme qui permet de faire avancer les choses, qui est très utile et qui permet d'être une force motrice pour ces initiatives de progrès. Et j'insiste une nouvelle fois, les CCTLD jouent un rôle essentiel. Elles sont financées, elles sont des ressources financières parce que ils vendent des noms de domaine. Ce sont des entités commerciales. Alors nous devrions utiliser dans le cas du RFC, nous avons un objectif très utile pour mon pays, pour le Pérou. Notre responsable de CCTLD reçoit 10 millions de dollars par an. Est-ce qu'ils sont responsables par rapport à la gestion de ces fonds? Nous ne pouvons pas avoir accès à ces fonds et on ne sait pas très bien à quoi ils sont utilisés. C'est la réalité. 80% des gérants des CCTLD dans le monde ont ces fonds et nous devons connaître leur utilisation.
Merci.
Jean-Jacques Subrena au micro.
Venir un instant. C'est Jean-Jacques Subrena au microphone. À propos des noms de domaine pays, CCTLDs. Interprétation. Ça marche? Oui, ça marche. Très bien, merci. Je reprends. Jean-Jacques Subrena. Je voudrais revenir au dernier intervenant qui a parlé notamment à la fin des noms de domaine pays, c'est-à-dire CCTLDs, pour signaler que ce matin j'ai assisté à 7h à une réunion entre le CCNSO, donc l'organisme chargé de coordonner la politique des noms de domaine pays, et ELAC, c'est-à-dire le comité des usagers de ICANN. Et je vous recommande très fortement de vous rapprocher d'Olivier Crépin-Leblond, le président de ELAC, et simultanément de Byron Holland, le président du CCNSO. Parce que justement, le thème de la discussion ce matin, c'était quels sont les domaines où ces deux organismes peuvent coopérer. Et un des points mentionnés, c'était le souhait, le désir d'avoir un accès plus naturel, plus automatique aux données des uns et des autres. Par exemple, les opérateurs de CCTLD voudraient mieux connaître les ALS et inversement. Donc, une des idées que nous pourrions développer, que vous pourriez développer, ce serait de créer une liste unique, un tableau unique, un accès Internet, un seul point d'accès, pardon, pour avoir tout ça en même temps. Donc, je pense que ça vaudrait la peine.
Fatima, au micro. Oui, par rapport au CCTLD, un commentaire. Parce que cette question a déjà été abordée à maintes reprises. Et personnellement, je crois que le modèle multi-parties prenantes d'administrer le point BR comme au Brésil ne fonctionne pas dans tous les pays et qu'on ne peut pas vouloir appliquer des solutions qui ont fonctionné quelque part dans d'autres pays où la situation est différente, où la capacité d'appliquer ce modèle multipartie prenante n'est pas le même. Donc ça dépend de chaque pays. Dans certains pays, ça fonctionnerait, dans d'autres, non. Et comme cela a été dit, personnellement, je considère que cette question du CCTLD, c'est une question qui doit être réglée au niveau local. Si nous autres organisations de la société civile devons jouer un rôle, ce doit être celui d'essayer de dialoguer avec l'administrateur du point pays de chacun de nos pays, mais au niveau local, je ne pense pas qu'une solution au niveau régional fonctionnerait, parce que même s'il y a des similitudes dans la région, il existe beaucoup de différences aussi, en particulier dans ce domaine. Il en va de même du cadre civil brésilien qui a été approuvé dans le cadre de la réunion de dette mondiale. C'est une solution qui a fonctionné pour les Brésiliens, à la suite d'un processus qui a pris de nombreuses années, mais on ne peut pas s'attendre à ce que cette solution fonctionne dans chacun de nos pays, pouvoir appliquer cette solution et la mettre en œuvre dans chacun des pays, parce que les contacts sont différents, les réalités sont différentes, et les législations aussi diffèrent d'un pays à l'autre. Mais pour revenir à la question des CCTLD, je pense que c'est une très bonne idée d'en revenir au niveau local et que les organisations qui participent à At-Large aient ce dialogue avec les points pays. Gunella Aspring au micro. Oui, d'un point de vue pratique. Sachez que nous sommes en train de prendre note de tous les commentaires et que ces informations seront réunies, que nous allons ensuite élaborer un document final qui va être rassemblé avec celui des autres groupes thématiques et présenté jeudi. Donc, il est très important que nous puissions compter sur ces informations et que nous puissions collecter toutes ces informations. Donc, merci à tous de vos interventions. Merci. Je crois que Julia souhaitait intervenir.
Thank you so much, Gunella.
Gunella au micro.
Je voudrais reprendre quelques points qui ont été effectivement évoqués par le collègue Dafralo sur l'infrastructure. Et, pour être très bref, je crois, comme ce qui venait d'être dit, il est très important certainement d'assurer que les questions d'infrastructure et d'accès, que ce soit accès à l'Internet, que ce soit l'accès à l'information, soit repris soit par les lignes politiques, c'est-à-dire les policies ou les roadmaps, ce que venait d'être dit, mais également par les législations au niveau national. Et en effet, c'est ce que Fatima venait de dire, c'est ce qui a été fait au Brésil avec le Marco Civil. Je crois voilà que ces deux points sont importants, d'assurer que ces points-là sont repris par les législations, effectivement au niveau national, mais peut-être également au niveau régional, tout en étant accompagné des lignes politiques de développement, c'est-à-dire les policies. Voilà, merci.
Hello. Good morning.
Bonjour. Je vais parler en espagnol. Humberto Carrasco. Je continue d'être impressionnée par la séance de travail et par celle d'hier. Et je voudrais faire un petit résumé de ce qui m'a semblé intéressant d'écouter ce matin. D'abord, le problème numéro 2 que vous avez proposé de débattre. Par rapport à ce problème, il faut prendre en considération que lorsque l'on parle d'économies émergentes et d'économies qui ne le sont plus, il faut voir quels sont les indicateurs qu'on utilise, qu'il s'agisse du coefficient Gini, l'indice du développement humain, pour pouvoir mieux parler de ce dont on parle. Ensuite, je suis d'accord avec la personne qui vient de dire qu'il est difficile de faire une distinction entre les aspects dans les différentes couches, même si je comprends bien qu'il est important de le faire à des fins didactiques. Et par rapport à cela, j'avais cru comprendre qu'on allait se concentrer sur l'infrastructure et l'accès. Et j'aimerais vous soumettre un exemple qui est celui de mon pays, le Chili. Nous sommes un pays très long, plus de 4000 kilomètres, avec des zones qui sont difficiles d'accès et qui souffrent continuellement de tremblements de terre. J'étais à Santiago lorsque nous avons eu le séisme de 8.8 sur l'échelle de Richter à Santiago. Et donc là se pose le problème, tout le problème des communications. Ça a engendré une coupure des services, de lignes de téléphone, d'accès à Internet, qui apparemment a pu être solutionné lors du dernier séisme qu'on a eu cette année à Quique dans le Nord, parce que WhatsApp, par exemple, et d'autres mécanismes comme Twitter ont pu parfaitement fonctionner. Donc, si on parle de continuité en matière d'infrastructure, du moins pour ce qui concerne l'accès à Internet, dans des situations d'urgence, on a avancé. Deuxièmement, j'aimerais redire ce que j'ai dit hier par rapport à la distinction entre les aspects économiques et non économiques dans le domaine de l'Internet pour ce qui concerne les utilisateurs. Par exemple, pour ce qui concerne les droits des utilisateurs, la liberté d'accès, la liberté d'information, la liberté d'expression, tout ça, c'est lié aux intérêts économiques, à un contrat d'accès à Internet avec un fournisseur. Mais c'est une question qui prévaut sur le reste. Je voulais également parler, pour illustrer un petit peu le cas du Chili, vous raconter que il y a eu un cas de succès, entre guillemets, celui de l'Internet. C'est-à-dire que la majorité de la population chilienne a accès à Internet, mais on a un problème de qualité. Et je crois que je rejoins mon collègue de Turquie pour dire que ça ne concerne pas simplement les zones rurales, mais il y a un problème dans le sens où les fournisseurs offrent un service auquel qu'ils ne peuvent pas couvrir. Et là, ça a une incidence directement sur les consommateurs. Et on passe à la question des consommateurs. Et dernier point qui a été évoqué, ou plutôt qui a été présenté sur la diapo. Donc voilà le commentaire que je voulais faire par rapport au dernier point présenté sur la diapo. Merci. Gunella au micro, merci. On va passer aux interventions de l'autre côté de la salle, mais il faut s'assurer que l'on couvre tous les points au nombre de 5 qui figurent à l'écran. Anna Pound voulait intervenir dans la salle ? Bonjour, je m'appelle Aida Nolia. J'appartiens à l'Association des notaires de l'Uruguay. Et je voulais apporter un témoignage de mon pays, petit également, 75 000 km² et 3,5 millions d'habitants. Mais ce pays rencontre certains problèmes dans un monde si grand. J'ai écouté ce qu'a dit Laureano et je suis d'accord sur le fait que les politiques publiques des pays sont très importantes parce qu'en Uruguay, à partir de 2005, où on a créé l'agence de la société pour la gestion des informations et des connaissances, la CEFSIC, donc grâce aux politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement, on a pu développer dans les différents secteurs les technologies depuis les unités qui concernent la sécurité informatique, l'unité de protection des données personnelles et d'autres unités. On a mis en place une politique au niveau du pays qui, du point de vue de l'infrastructure et de la diffusion, s'est concentré essentiellement sur les enfants. Et ça, ça a été très important. En Uruguay, nous avons pratiquement un niveau zéro d'analphabétisme. Le pays est totalement alphabétisé. Et donc, grâce à un plan qui s'appelle Seibal, on a pu donner un ordinateur à chaque enfant. Et ça, ça a eu une incidence sur chaque cellule familiale. Parce que dans des zones rurales, on a permis à des enfants de pouvoir apprendre à leurs parents à utiliser un ordinateur. Et ça, ça a contribué à ce qu'on appelle l'autonomisation et au fait que les populations rurales puissent grâce aux enseignements que leur donnent leurs enfants, savoir quel est le prix du lait, quel est le prix de telle ou telle denrée alimentaire. Donc, on a mis en place tout cela dans tout le pays, un ordinateur par enfant, et ensuite on est passé au lycée, collège, parce qu'on a parié sur cette génération. L'année dernière, on a également organisé un concours d'affiches dans les écoles de tout le pays sur la campagne intitulée « Tes données sont importantes ». On l'a organisé dans des écoles rurales et il s'est avéré que les enfants se montrent très créatifs pour intégrer sur une affiche ces connaissances. Donc, on a avancé, bien entendu, il existe encore des inégalités par rapport à ces technologies. Et très souvent, les utilisateurs se contentent de les utiliser uniquement pour Facebook. Donc voilà, je voulais simplement vous évoquer l'exemple de mon pays. Merci. Merci beaucoup. Gunella au micro. Bonjour, Anopa au micro. D'Apralo. Je voulais faire deux commentaires très brièvement. D'abord, l'objectif de créer une ALES, d'après moi, consistait à faire en sorte que l'Internet soit accessible aux masses. Et on peut inclure cela dans les commentaires finaux, parce que c'est l'objectif même des ALS et la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Deuxième commentaire. L'Internet consiste à créer des opportunités et à jeter des ponts entre les riches et les pauvres, les pays développés en développement ou les économies émergentes. Il s'agit de créer des opportunités et donc de jeter des ponts entre les plus dépourvus et ceux qui ne sont pas dépourvus. Donc, on peut parler du niveau des libertés économiques et également de la masse. Donc, on peut utiliser le terme d'utilisateur ou de consommateur indistinctement. Et troisième commentaire par rapport à l'éducation. L'éducation a été un élément clé dans mon pays, en Inde, grâce à l'Internet. Mais on a organisé des salles de classe à distance ou virtuelles qui ont permis à des régions isolées d'être impliqués. Et ça a permis à ces populations de sortir de la pauvreté et d'avoir accès à les libertés économiques. Donc voilà les commentaires que je voulais faire par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Gunella au micro. Oui, Marine, un commentaire dans le fond de la salle. Merci beaucoup. Alors, pour revenir sur le commentaire fait par Fatima et Jean-Jacques, plus tôt, concernant la participation des CCTLD, j'aimerais dire que, effectivement, c'est vrai, les utilisateurs finaux ont le droit d'en savoir davantage sur les CCTLD. C'est quelque chose sur lequel la LAC travaille. Mais les CCTLD travaillent dans le cadre des législations nationales. Et la LAC aide à mettre en place des politiques cohérentes. Et le CCNSO ne crée pas de politique pour leur CCTLD. Donc, ces politiques sont développées dans chaque nation souveraine. Mais nous sommes en train d'encourager à la LAC une relation de coopération entre les CCTLD et les utilisateurs finaux, les gens dans les pays, comme Jean-Jacques l'a dit, pour partager des informations et pour garantir le fait que les utilisateurs finaux aient accès aux services que les CCTLD devraient leur fournir. Et là encore, on se concentre sur les utilisateurs finaux. Et ça, c'est étroitement lié à ce que fait l'ICANN. Merci, Marine. Gunella au micro. Nous avons couvert beaucoup des thèmes, infrastructures, accès, et on a abordé d'autres questions concernant la qualité du service, etc. Peut-être qu'il serait bon de consacrer quelques minutes maintenant au troisième point concernant l'accessibilité. Hier, on a parlé d'accessibilité pour les personnes âgées et les questions connexes. Avez-vous des commentaires sur l'accessibilité des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes vulnérables? Et quelles seraient, d'après vous, des stratégies qu'il serait bon de mettre en place dans ce domaine?
Hello.
Bonjour. Monique Epstein au micro de Paris. J'aimerais partager avec vous une idée qui vient de me venir à l'esprit par rapport aux personnes âgées. Ce que nous faisons, c'est que l'on apprend aux seniors, aux personnes âgées, comment utiliser l'Internet. Et en vous entendant parler de l'argent qui est destiné aux CCTLD, etc., qu'est-ce qu'ils en font, etc., je pensais, pourquoi ne pas penser que les personnes responsables dans un pays pourraient participer également à l'éducation des gens. Parce que une chose, c'est d'avoir un ordinateur et de payer pour avoir accès à l'Internet, mais également de savoir comment l'utiliser. Un autre terme que l'on n'a pas utilisé, c'est l'exclusion numérique, ou, si vous voulez être optimiste, l'inclusion numérique. Et pour lutter contre cette exclusion numérique, c'est justement d'enseigner aux gens la culture de l'Internet. Il faut enseigner, il faut transmettre à ces personnes âgées cette culture de l'Internet, qu'ils puissent comparer les prix. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20-30 ans. Et leur transmettre de nouvelles habitudes. Donc, ce qui est important, c'est de former les personnes âgées. Parce que certaines de ces personnes âgées sont, ont peur d'utiliser l'Internet. Gunella au micro, Sergio. Sergio au micro, merci beaucoup. À chaque fois que vous prenez la parole, est-ce que vous pourriez donner votre nom, parce que sinon ça ne va pas figurer sur les transcriptions. Alors, lorsque j'ai vu ce thème, j'ai pensé la chose suivante. Alors, si ça va donner lieu à une position politique au sein de l'ICANN par rapport au fait de combler le fossé, ou est-ce qu'on va pouvoir avoir une action concrète? C'est un petit peu mon problème. On parle d'une chose qui va donner lieu à un document simplement, ou est-ce qu'on parle d'un changement dans la structure même de l'ICANN pour combler ce fossé et pouvoir intégrer les personnes handicapées, ou, dans le cas des migrants numériques, pouvoir les intégrer. S'il s'agit uniquement de donner lieu à un document, alors ça n'est pas un problème de pouvoir avoir un document politique et d'avoir une position claire sur la question des utilisateurs. Mais lorsqu'il s'agit de débloquer les fonds pour pouvoir le faire, au-delà de la position politique, je ne sais pas si nous sommes en condition de pouvoir dire à l'ICANN ou aux entreprises qui y sont liées de débloquer les fonds nécessaires pour lutter contre ce fossé numérique. En termes de personnes handicapées ou pour ce qui concerne... Je crois qu'un migrant numérique, c'est autre chose qu'une personne handicapée. Donc, je ne veux pas les regrouper. Mais ces deux segments de la population devraient être la cible d'une action concrète. Je crois que nous, ici, on est en train de travailler dans ce sens. Notre organisation travaille énormément avec les migrants numériques, avec les personnes âgées. Mais à vrai dire, très souvent, on est confronté à des problèmes de financiers pour pouvoir trouver 10 ordinateurs quelque part et travailler avec eux. Donc si l'ICANN va faire une action directe, c'est important de le faire. Si ce n'est pas le cas, je suggère de rédiger dès maintenant un document. Gunella Aspring au micro. un commentaire par rapport à votre question. Où allons-nous du point de vue de l'ICANN? Il y a maintenant un groupe de travail at large sur l'accessibilité qui s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Ériger une culture de l'accessibilité, augmenter l'accessibilité, s'assurer que les processus de l'ICANN sont aussi accessibles que possible. Il s'agit d'un tout nouveau groupe qui vient de fixer ses nouveaux objectifs. Et à l'avenir, il y aura une liste de points de discussion pour ce groupe et l'ICANN et la communauté de l'ICANN pourra débattre de tous ces thèmes. S'agissant des CCTLD, GTLD, il est important de renforcer la sensibilisation vis-à-vis de la communauté et j'en parlerai par rapport au CCNSO. J'espère que plusieurs de ces points pourront être précisés à l'avenir. Je crois que Julia est la personne qui souhaite intervenir maintenant. Bonjour, merci Gunella. J'aimerais revenir sur la question de l'accessibilité. Et j'aimerais vous remercier d'avoir évoqué les personnes handicapées et peut-être parler des personnes désavantagées ou les populations vulnérables. C'est peut-être le terme consacré. Mais j'aimerais revenir sur ces groupes cibles, encourager leur plus grande participation dans la société de l'information. Donc, renforcer leur participation dans les processus de prise de décision, comme cela a été souligné dans un certain nombre de documents et de résolutions, comme la résolution de la 52e Assemblée générale des Nations unies de cette année, qui souligne le fait que la participation de tous les groupes et groupes vulnérables est très importante pour le renforcement des capacités humaines et autres. Donc, que pouvons-nous faire? Il faut encourager les gouvernements à développer des stratégies d'inclusion numérique. Ça a été fait par le gouvernement.
Encourage to have a kind of regional hubs.
Et il est important également d'avoir une plateforme régionale sur l'accessibilité pour tous, par exemple les personnes handicapées, vulnérables, etc. Des plateformes qui nous permettent d'échanger sur les bonnes pratiques, la recherche et autres. Merci.
Thank you. This is Gunilla Spring for the record.
Oui, Sylvia va avoir la parole. Oui, merci beaucoup. Sylvia Herling au micro. Je suis de Inter Alta au Brésil et j'aimerais donc répondre à la question de Gunilla. Dans notre association, nous travaillons avec des personnes âgées, des seniors, et nous mettons l'accent sur l'éducation, sur l'inclusion de ces personnes. Nous sommes en train de mettre en œuvre différents programmes dans l'école Isamba. Et on travaille avec des personnes vraiment très défavorisées au Brésil. Et nous avons créé certains centres pour inclure ces personnes âgées, défavorisées, pour qu'elles soient en mesure de s'engager, de communiquer avec leurs petits-enfants, avec leurs enfants, grâce à l'Internet. Parce que utiliser ces technologies, c'est comme de parler une autre langue qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont jamais entendue. Donc on doit mettre l'accent sur l'éducation et sur la formation. C'est tout à fait fondamental pour cette génération qui n'a jamais eu accès à ce type d'éducation. Donc au Brésil, nous mettons l'accent sur l'inclusion des personnes âgées et à l'inclusion des femmes qui sont également entre 30 et 40 ans et qui n'ont jamais eu accès à l'éducation pour qu'elles deviennent partie prenante au niveau économique également et qu'elles puissent trouver un emploi plus facilement. Oui, je m'appelle Javier du Chili et hélas, lorsque l'on devient âgé, un senior, eh bien, les priorités ne sont plus les mêmes. Il y a de nouvelles dépenses à couvrir. Donc, investir en technologie, en équipement technologique est parfois difficile, en ordinateur est parfois difficile. Et donc, ceux qui sont nés avec les technologies de l'information, c'est tout à fait différent. Mais les plus jeunes peuvent aider les plus âgés. Et je crois que c'est très important que les personnes âgées se mettent à l'informatique et à l'Internet. Et nous faisons une campagne pour un accès à l'équipement pour tous. Nous avons eu des campagnes d'éducation, d'accès à l'information numérique, mais très souvent, on n'a pas beaucoup de subventions dans les collectivités pour l'accès à l'équipement Internet qui peut représenter des sommes pour certaines personnes âgées défavorisées. Donc, accès à l'équipement, à l'éducation et à la communauté. Parce que si on n'a pas ces trois piliers, eh bien, on n'est plus véritablement en mesure d'avoir une personne qui soit totalement intégrée dans la communauté au niveau numérique. Et parfois donc, nous avons des campagnes de publicité pour Noël, par exemple, mais ils ciblent des enfants. On voit que parfois, on achète des ordinateurs ou des tablettes pour ces jeunes, mais il n'y a pas de campagne qui cible les plus âgés, les seniors, pour qu'ils aient un meilleur accès à l'équipement informatique et aux ordinateurs. Donc, avant de passer à Philippe, nous avons un commentaire à distance que nous aimerions prendre en compte. Carlos Reyes, Pablo Rodriguez, un commentaire à distance. On a parlé des investissements pour les connexions Internet, les communautés et au niveau municipal, l'accès à l'Internet est parfois donné. Qu'en est-il donc de ce service qui est offert par les municipalités pour l'accès à l'Internet? La parole est à Philippe maintenant. Philippe Johnson de ISOC Liberia. Eh bien, ce matin, c'est très important ce que nous avons dit. On a parlé d'infrastructure, on a parlé d'accès, de coûts, mais notre organisation également parle de la prise de conscience pour la meilleure utilisation de l'Internet, des activités en ligne, la confiance envers l'Internet. Est-ce qu'on peut avoir confiance en l'Internet? Beaucoup de personnes dans les pays en développement utilisent l'Internet d'une manière négative. Ils ont un aspect très négatif, un point de vue très négatif sur l'Internet. Parce qu'ils ont perdu peut-être de l'argent, ils ont été utilisateurs et ils ont été peut-être victimes à cause de méfaits sur l'Internet avec beaucoup de services frauduleux qui existent sur l'Internet. Ils reçoivent ces courriels qui leur demandent de l'argent et la meilleure utilisation de l'Internet doit être renforcée et expliquée. Comment est-ce qu'on peut indiquer aux utilisateurs comment utiliser l'Internet de la meilleure manière possible pour qu'on puisse avoir confiance en l'Internet et qu'on ne soit pas la victime de tous ces problèmes qui existent sur l'Internet, comme nous l'expliquent les policiers. Dès que l'on utilise l'Internet, on peut faire être la victime de chantage sur l'Internet avec différents courriels qui vous sont envoyés avec des demandes d'argent, par exemple. Oui, en effet, ce sont des points très importants. C'est noté. Je crois que oui, nous avons... Madame, vous voulez prendre le micro? Vous m'entendez? Merci beaucoup. Narin Nachatinian d'Arménie. Eh bien, je crois que cela ne fait aucun doute, l'accès à l'Internet offre beaucoup de possibilités pour inclure, pour participer, et ce sont des outils absolument essentiels pour le développement des sociétés. Mais au même moment, nous avons vu que l'Internet peut être utilisé comme un instrument de censure et de surveillance. Comment est-ce que l'on peut s'assurer que l'Internet permette de développer les économies émergentes avec les ICT, par exemple? Le problème, c'est que parfois, on renforce les inégalités dans la société. Donc, il faut donner ces nouvelles possibilités grâce à Internet, il faut les donner à tous les citoyens et citoyennes. J'aimerais donc souligner que les problèmes d'accès doivent être revus par rapport aux capacités. Si l'on veut avoir une société renforcée, il faut donner des possibilités d'apprentissage, des possibilités d'éducation grâce à l'Internet, et il faut véritablement qu'il y ait une nouvelle alphabétisation qui soit offerte grâce à l'Internet, avec la meilleure participation à la vie politique également, à la vie citoyenne qui est possible grâce à l'utilisation de l'Internet. Merci beaucoup. Nous avons couvert la plupart des thèmes. Il nous reste 10 minutes à venir. On pourrait parler de qualité de service et des contrats commerciaux avec entre les gouvernements et les prestataires de services. Donc, je crois que Aziz... Non, vous voulez prendre la parole? Non, cette personne était avant, madame, peut-être avant. Donc, merci, on va vous demander de vous lever pour qu'on puisse vous voir. Oui, je m'appelle Mercé Moyo et je parle au nom de mon organisation, Naitoka, qui est en Afrique, basée en Afrique. Je suis une formatrice et j'ai été dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. J'essaie de promouvoir la prise de conscience et l'utilisation des bases de données en ligne. Et j'aimerais dire qu'en Afrique subsaharienne, la plupart des pays et communautés émergentes, l'accès est toujours un gros problème en Afrique à cause de la mauvaise qualité de l'Internet, comme l'a dit Aziz. Cette qualité qui n'est pas assez bonne a un impact négatif sur l'accès à l'information et le résultat, c'est que, par exemple, les chercheurs ne peuvent pas faire leur travail. Le travail de recherche est très difficile. Et la recherche n'est pas très haut niveau à cause, justement, de cet accès à l'Internet. On doit toujours travailler un petit peu à l'ancienne. Donc, je vais vous demander de vous lever.
Moi, je voudrais aborder la question de l'accessibilité pour les problèmes déficience visuelle, c'est-à-dire les non-voyants. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a la possibilité pour les aveugles, pour les non-voyants, d'avoir l'accès à Internet. Ici, malheureusement, ils doivent avoir du matériel un peu plus qu'un citoyen normal, puisqu'ils doivent avoir, en plus des ordinateurs, une synthèse vocale et des afficheurs braille. Et les personnes non-voyantes sont confrontées au problème de l'accessibilité du web, puisque je ne suis pas un spécialiste, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut plusieurs dizaines de règles qu'il faut respecter par les webmasters, soit partiellement, soit totalement, pour rendre un site web accessible à un utilisateur non-voyant. Et donc, c'est une question qui a été soulevée au niveau de pas mal d'institutions, en particulier l'ONU, et qui a apporté une étude qui avait apporté à peu près seulement entre 20 et 30% d'aveugles qui ont accès, 20 à 30% de sites web qui respectent ces règles. Et donc, il est important donc de rendre l'internet accessible à tout ce monde, et que les webmasters respectent ces règles pour qu'il y ait accès à ces déficiences visuelles.
Oui, Lackspring, merci beaucoup, Aziz. Ce sont des points importants que vous avez soulevés. Et en effet, les lignes de conduite pour l'accès aux sites web, des lignes de conduite internationales, c'est utilisé dans certains pays, c'est utilisé par certains webmasters, mais en effet, il faut que cela se diffuse beaucoup plus et que toutes les entités commerciales respectent ces règles et ces lignes de conduite pour la création des sites web, pour que ces sites web soient accessibles à toutes et à tous. Merci, très bien, vous avez la parole. Levez-vous, s'il vous plaît, parce que nous avons une caméra, je crois, qui ne peut vous voir que si vous êtes levé. Merci beaucoup. J'appelle Chris Parsons et je suis de Naralo, l'Amérique du Nord. Et j'aimerais donc brièvement parler des problèmes d'accès et d'infrastructure, ainsi que des prestataires de services. Donc c'est un projet qui est en première phase que nous avons, mais il y a eu des recherches qui ont été faites par l'Université de Toronto. Comment les entreprises comme Google et Facebook s'investissent et investissent pour une meilleure accessibilité dans le monde entier à l'Internet, que ce soit en Nouvelle-Zélande, où c'est difficile, vu la taille du pays, en Afrique, en Amérique du Sud, dans d'autres endroits. C'est un effort qui provient donc d'une entreprise interne américaine, ou d'entreprises américaines au pluriel, pour fournir l'accès au débit à l'Internet dans le monde entier. Mais parfois, on ne prend pas assez en considération les lois locales, les coutumes locales, tradition, et en plus il y a d'autres défis à relever basés sur les cultures et sur les normes. Facebook et Google, ils ont leurs propres moyens. Facebook par exemple, vous le connaissez sûrement, ils sont très agressifs pour donner un accès gratuit au service Facebook. Ils essayent de limiter les coûts. Dans des endroits où l'accès à l'Internet est cher, ils veulent absolument qu'on puisse avoir accès à Facebook, au moins. Google, maintenant, a été poursuivi en justice parce qu'ils essayent de retirer parfois des contenus. Donc, lorsque Google se déploie et déploie plus d'accès à l'Internet, eh bien, Google sélectionne le contenu, parfois, et pose problème. Je suis d'Amérique du Nord, personnellement. Il y a eu un grand débat sur la liberté d'expression dans l'Internet. Au Canada, d'où je proviens, nous avons une décision importante juridique qui vient d'être prise. Une cour supérieure du Canada a demandé à Google de ne plus retirer des liens d'une manière unilatérale. Donc, ce sont des entreprises privées qui font beaucoup pour l'accès à l'Internet, mais dans les pays les plus développés économiquement, nous avons des entreprises très puissantes, très fortes, qui sont des entreprises mondiales, des multinationales. Donc, il y a un travail qui est fait, notamment au Canada, mais c'est au niveau mondial que nous devons pouvoir trouver des solutions. Et on n'a pas assez mis l'attention sur ces efforts. Il y a beaucoup d'argent qui essaie justement de jouer avec l'accès mondial à l'Internet et en même temps à l'accès au contenu de l'Internet et parfois limiter les contenus sur l'Internet. Merci beaucoup. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau ce matin, donc nous prenons note. Et c'est un contexte tout à fait intéressant. Votre voisin va prendre la parole. Bonjour. Je vais m'exprimer en espagnol. Humberto Carrasco. Je suis de l'Acralo et je voudrais mettre l'accent sur la qualité du service, sur les accords et les contrats avec les prestataires de services, les ISP. Je vais vous donner l'exemple du Chili parce que le Chili était le premier pays dans le monde à mettre en œuvre la neutralité de l'Internet. Il y a une loi pour la neutralité de l'Internet qui défend beaucoup les utilisateurs et qui provient des utilisateurs. Mais on n'a pas eu tous les résultats escomptés à 100% parce que les négociations avec les prestataires de services ont dû se dérouler. Mais on a eu quand même des avancées envers la neutralité de l'Internet. On a mis des pressions sur le régulateur, pour que la qualité des services provenant des ISP soit accrue. Il y a eu des enquêtes de fait par rapport aux régulateurs, aux organismes de régulation et de réglementation. Les fonctions gouvernementales, c'est de contrôler la qualité du service également. Parce que très souvent, les ISP, les prestataires de services Internet, fournisseurs de services Internet, eh bien, ils donnent que peu de mégabytes et ils ne donnent pas le nombre qu'ils avaient promis, le nombre de mégabytes promis. Ils ne tiennent pas parole. Donc, en tant qu'utilisateurs, nous devons absolument promouvoir des politiques publiques où nous aurons donc un effort joint en tant que consommateurs et utilisateurs. Nous devons faire en sorte qu'il y ait un contrôle et qu'ils respectent leurs paroles, ces prestataires de services Internet. Il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle qui proviennent des gouvernements, qui soient en mesure de contrôler la qualité et la teneur des services Internet qui sont offerts par les prestataires. Nous avons à distance un commentaire que nous allons lire. Carlos Reyes, commentaire de Javier Rodriguez. Une question de Javier Rodriguez. Oui, Cunella, qu'est-ce que vous pouvez faire de ces idées? Est-ce que vous avez un certain pouvoir? Est-ce que vous pouvez faire accepter de nouvelles règles? Nous avons un conseil d'administration. Est-ce que nous avons également des actions? Enfin, est-ce que nous pouvons demander aux personnes de la salle s'ils sont contents d'avoir un seul représentant sur le conseil d'administration, alors quand il y a de cela quelques années, l'ALAC avait pratiquement la moitié des personnes qui étaient représentées au conseil d'administration et qui avaient un nombre de voix et de votes beaucoup plus important. Oui, Gunala, je ne suis pas présidente de cette table ronde. Wolf Ludwig est modérateur de la séance et nous avons plusieurs panélistes pour parler de ces problèmes. Nous avons deux experts. En ce qui concerne où l'on va avec tout cela, eh bien, comme je l'ai mentionné auparavant, les informations que nous partageons ce matin, toutes ces idées qui jaillissent ce matin et qui ont été lancées hier, seront condensées en un rapport. Et ce rapport sera harmonisé avec les autres groupes et présenté jeudi au forum public. Donc, je crois que ça peut répondre à une question. Et en ce qui concerne le conseil d'administration de laquelle je peux donner à Jean-Jacques Subrenat la possibilité de répondre à ce sujet. Yes, Jean-Jacques Subrenat, j'aimerais revenir à la première question et ajouter que ça ne va pas être seulement un rapport descriptif. On a pris un café à telle heure et ainsi de suite et on ne va pas simplement évoquer les thèmes, mais nous allons avoir également des recommandations qui ont été faites. C'est important qu'on fasse des recommandations. Est-ce que ces recommandations vont passer à un niveau supérieur? Ça, c'est une décision qui sera prise entre les modérateurs Wolf et Gunella. Ils vont travailler avec les autres groupes de travail et avec le président de la LAC. En ce qui concerne la deuxième question du conseil d'administration de l'ICANN, le conseil d'administration de l'ICANN est composé de personnes. Dès qu'ils assument leur fonction au conseil d'administration, ne représentent plus une partie de l'ICANN, des parties prenantes de l'ICANN. Ils deviennent de facto personnes indépendantes, un membre du conseil d'administration indépendant ou indépendante, et ça va continuer ainsi. Ils utilisent leur propre jugement pour leur prise de décision, et deuxièmement, dans les lignes de conduite, eh bien, dans le règlement intérieur, nous avons doivent être loyaux, non pas envers l'Internet au sens abstrait du terme, non pas envers la communauté ICANN, qui est une idée abstraite également, mais ils sont loyaux envers la corporation, envers l'entreprise, entre guillemets. Ça vient des lois de Californie, de l'État de Californie, qui régissent l'ICANN. Renalia Abdul-Rahim est un choix extraordinaire. Elle ne va pas nous représenter, vous représenter, mais elle va représenter avec sa propre sensibilité, avec son propre passé, avec sa propre expérience, puisqu'elle provient de cette communauté à la LAC pendant de nombreuses années. Elle a été membre de la LAC et elle apportera sa propre sensibilité aux décisions du conseil d'administration. Mais elle prendra ses décisions en son fort intérieur. Est-ce qu'il doit y avoir plus de personnes provenant de At Large au conseil d'administration de l'ICANN? Personnellement, je dirais que nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin d'accroître la proportion de membres votants au sein du conseil d'administration. Comment on peut atteindre cela? Telle est la question. Je crois également que dans le groupe de travail de la LAC, dans lequel j'ai fait partie, papiers de prise de position qui ont été publiés pour que l'ICANN soit plus responsable, réponde plus réactif, soit moins redondante et ainsi de suite, les trois R respectés. Nous avons eu de nombreuses recommandations à ce sujet. On aurait besoin, je crois, de repartir un système de nomination au conseil d'administration qui soit fait par un système de commission de nomination et non pas par une nomination directe par des prestataires de services ou par le groupe des avocats qui s'occupent de cela. Je crois que ça devrait être plus égalitaire, ce système de nomination au conseil d'administration. On doit revoir un petit peu cela. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Gunella au micro, Gunella Hatzbrink. Merci beaucoup de cette explication. Nous sommes près de la fin de notre séance ce matin. J'aimerais donc prendre les deux commentaires de Vena Ernetta que nous allons écouter. Oui, j'appelle Vena Hultzmann. Je suis d'Allemagne pour la protection des données et la protection de la vie privée. J'aimerais soulever quelques points sur l'utilisation de l'Internet. En utilisant des Facebook, Google qui sont gratuits. Ce sont, en fait, on paie d'une autre manière, avec les données personnelles. On donne toutes nos données personnelles à Google ou à Facebook, et c'est comme cela qu'on l'on paye, et c'est pour cela qu'on obtient un service gratuit. Donc, que font-ils de ces données personnelles? Nous avons les services secrets. Vous avez entendu parler de Snowden, de la NSA, et ainsi de suite. Ces services secrets qui nous espionnent de cette manière. Nos messages privés doivent être encryptés. Et c'est ce qu'on appelle ces métadatas, sinon sont utilisés par tous les services secrets. Et toutes ces données sont lues. Eh bien, si vous passez par le site de l'ICANN, par exemple, toutes les communications qui vont passer par là vont être lues et engrangées, emmagasinées par les services secrets de nombreux pays du monde. On voit les organisations de droits de l'homme dans de nombreux pays qui sont espionnées de cette manière. Et si le gouvernement n'est absolument pas démocratique, eh bien là, vous allez avoir sur les sites web des respects des droits de l'homme une grande surveillance des réseaux d'espionnage. Donc, c'est bien là le problème des métadonnées. C'est un problème que devrait se poser l'ICANN pour l'infrastructure technique. Comment est-ce que l'on peut protéger nos données? Que fait-on des métadonnées? Qu'advient-il de ces données, de ces métadonnées qui passent par l'Internet, qui peuvent provenir de sites web? Moi, j'aimerais savoir à quel point ma vie privée est protégée sur l'Internet.
Gunella, Aneta, vous aurez le dernier mot. Aneta Mühlberg de RALO. Je remercie l'intervenant du Canada et je remercie Umberto de leur intervention parce que vous avez ciblé des points très importants. Le lien entre l'infrastructure technique et l'infrastructure organisationnelle. Donc, si tout est entre les mains d'entreprises privées ou d'organisations privées, alors comment pouvons-nous avoir un contrôle là-dessus? Y a-t-il une nécessité de réglementer ces organisations privées dans les organisations publiques ou doit-on proposer des organisations publiques alternatives? En tout état de cause, on doit s'assurer de mettre en place certains critères, ce qui nous ramène à la discussion d'hier. Oui, il nous faut renforcer l'intérêt des utilisateurs tout en renforçant les droits des consommateurs dans le sens de, je ne me souviens plus de la traduction de Hagebe. Quelqu'un me l'a soufflé hier. Termes et conditions. Ah, termes et services. Donc, les lois que nous avons dans nos pays garantissent la liberté d'expression, de vie privée, de protection des droits des consommateurs, dans le sens où vous avez le choix. Mais toutes ces lois n'ont pas d'utilité vis-à-vis des entreprises privées à l'heure actuelle. Par exemple, si c'est une entreprise étrangère, alors c'est très difficile pour un pays à l'autre bout de la terre de dire fermement que vous avez des droits et qu'ils peuvent être appliqués ailleurs. Donc je crois qu'il faut essayer de se concentrer sur les principes pour les utilisateurs d'un point de vue technologique. Comment traduire ces droits des utilisateurs, des consommateurs, les traduire donc en conditions en termes d'infrastructure et en conditions en termes d'organisation. Donc il ne s'agit pas simplement d'un aspect technologique, mais également d'un aspect lié à l'organisation. Est-ce que ce sont les entreprises privées qui ont un contrôle là-dessus, qui gèrent tout ? Ce qui nous ramène à la question de la neutralité de l'Internet et à la qualité des services. Oui, effectivement, il en va de notre intérêt de répondre aux critères de neutralité de l'Internet. Wolf Ludwig au micro, j'aimerais compléter ce qu'a dit Annette, parce que cela me paraît particulièrement important. Ce matin, on a passé beaucoup de temps à parler des différents aspects de l'accessibilité. Effectivement, c'est un aspect important, mais ça n'est qu'un aspect parmi bien d'autres. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Annette, ce matin, quand j'ai entendu que quelqu'un ou plusieurs personnes ont dit « les États devraient », je deviens un peu nerveux. On vit dans des démocraties, il y a des lois. Donc, peut-être qu'il y a un plus haut niveau de confiance dans mon gouvernement, dans mon pays. Mais même si je vis dans un pays comme la Suisse, connu comme un pays représentatif de la démocratie, emblématique, etc., j'ai une confiance limitée dans les gouvernements, dans le gouvernement. Et je crois qu'après le cas Snowden, notre confiance dans les gouvernements devrait être encore plus limitée qu'avant. Donc, cette question de la confiance vis-à-vis des gouvernements, j'aimerais qu'on la remplace par un autre terme qui serait contrôle public. J'aimerais qu'il y ait des mécanismes en place pour que les autorités publiques aient une certaine souveraineté et contrôle sur les infrastructures de l'information et des télécommunications. Parce que c'est un élément important de l'accès public, même dans ce que l'on appelle les pays développés. En Allemagne, vous avez des domaines, même si c'est difficile à croire, vous avez des zones, pardon, où il n'y a pas d'accès. Et plus ces zones sont éloignées des centres urbains, plus c'est le cas, il y a des problèmes d'accès qui sont comparables à ceux que rencontrent ceux que l'on dénomme les pays en développement. Et l'accès aujourd'hui, même dans les pays développés, revient à la question du coût. Peut-être que l'accès est bon, mais s'il y a une faible rentabilité, l'accès, même dans les pays européens, peut s'avérer défaillant. Parce que tout cela dépend de mesures d'encouragement. Les entreprises aimeraient investir dans ce type d'infrastructure et de services. Mais si, du point de vue commercial, ça n'est pas intéressant, ces entreprises ne vont pas le faire. Donc elles vont dire, voilà, je laisse le soin maintenant à l'État d'intervenir et de le faire à ma place. Donc il faut voir quelle est cette relation, quelle est la responsabilité au niveau public ou au niveau de l'État et quel est le niveau de responsabilité au niveau privé. Et ça, c'est un problème, parce que lorsque c'est intéressant du point de vue commercial, alors c'est attrayant, parce que vous pouvez faire un bon chiffre d'affaires, mais si ça n'est pas rentable ou si ça n'est pas intéressant du point de vue commercial, alors vous laissez cela au niveau public. Bien. Après la pause, j'aimerais qu'on revienne sur cette question qui, d'après moi, est très importante.
Thank you. This is
Gunella Astbrink au micro. Merci. Nous, il est 10h30 passé. Donc, nous allons faire un résumé. Et comme tout le monde a besoin d'un café, on va faire une pause, revenir à 11h. Et aborder le prochain thème. Merci à tous de vos excellentes interventions. Jean-Jacques souhaite intervenir. Jean-Jacques Subrenat au micro. Merci Gunella. J'aimerais faire mon propre résumé de la séance de ce matin. Je sais qu'il y a une pause café. Est-ce que vous me permettez, lorsque l'on va reprendre à 11h, de vous faire un résumé, et j'aimerais que cela figure dans le rapport sous la forme de recommandations. Gunella Astbrink au micro, oui, très bien, je voudrais également faire un résumé. Retrouvons-nous à 11h et on va consacrer 5 minutes pour faire un résumé de ce que l'on a fait depuis ce matin. Merci.